BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours, et la blockchain en contient une fraction. Ce rendez-vous dédié aux blockchain et aux cryptos, bien sûr, chaque vendredi, c'est la grande rentrée des pros des cryptos sur BFM Business. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Owen Simonin nous accompagne aussi. Bonjour Owen.
Bonjour.
Sa chaîne YouTube Hacheur et bien sûr Owen Simonin à la tête de Just Mining. Xavier Fenot aussi est avec nous pour mesurer le potentiel technique des cryptos, notamment du Bitcoin. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Avec nous régulièrement Xavier Fenot. Interactive Trading, c'est la rentrée des pros des cryptos. Xavier, quel état des lieux là depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, depuis un peu plus d'un mois, qu'a apporté l'été aux cryptos d'un point de vue technique et quand on observe les courbes? Xavier.
Alors, je risque de vous décevoir, mais on est finalement à quelque chose près, dans la même ambiance qu'il y a un mois. Alors, on le sait, hein, sur les marchés traditionnels, le marché des crypto-monnaies est corrélé au marché traditionnel. On a toujours une inflation inquiétante, finalement, qui n'a pas progressé au mois de juillet. Le resserrement monétaire en cours, vous l'avez dit juste avant, avec une triple, voire maintenant une double hausse des taux avec les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis qu'on vient d'avoir, un dollar américain au plus haut. Donc, en fait, on a des marchés au sens large, finalement, qui doivent composer avec ça. Donc, ils sont toujours violents, rapides, voire peut-être même d'ailleurs aléatoires. Et toujours, donc, comme je le disais, cette corrélation marché crypto et marché traditionnel qui perdure. Mais les marchés, en fait, cet été, se sont dit, OK, bah, finalement, tout ça, on le sait, ça n'a pas changé. On est sur des grosses zones support hebdomadaires, annuelles. Tout ça, c'est mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire, sont intégrées dans les cours, c'est-à-dire pricées. Et finalement, c'est parti, on rebondit. 50% de hausse, quand même, sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies qui ont suivi, donc, les marchés traditionnels. Toujours, bien évidemment, avec la volatilité qui lui est propre. On est revenu sur les plus bas de l'été, donc 2021. Je rappelle, c'était la grosse zone support qu'il ne fallait pas rompre cette année, qui est du coup devenue résistance. Le marché l'a travaillé, sans réussir à la reconquérir. Et finalement, cette ambiance de rebond a été douchée ensuite par la semaine dernière, c'était vendredi dernier, les propos de Jerome Powell à Jackson Hole. Son objectif, donc, combattre l'inflation, quitte d'ailleurs à en faire souffrir les ménages et les entreprises. Donc aujourd'hui, on est balle au centre. Le rebond de juillet a eu lieu. On a retracé aujourd'hui 50% de ce mouvement aussi. On est sur un petit support à court terme qui tient d'ailleurs depuis ces derniers jours. Pour le moment, ça suffit pas pour effacer définitivement un peu cet entre-deux qu'on connaît depuis deux mois. Et sur le Bitcoin, lui, bah, il a beaucoup plus de mal, en fait. Ça se voit avec sa dominance qui se réduit à moins de 40% du marché. On était à près de 50% il y a trois mois. Ça montre sa sous-performance par rapport au marché. Donc, il tient toujours ses records historiques de 2017. Ça, c'est une bonne chose, les 19 000 $. Ça a stoppé la tendance baissière de 2022, mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus ces caps, 22 000 et 25 000 $ pour le moment, il n'y a pas vraiment de signal qui est ouvert. Donc on est à 20 000 $, on est un petit 10% au-dessus des plus bas. On est au même point finalement que fin juin, avec deux grands mouvements qui ont eu lieu et qui n'ont pas changé la donne pour le moment.
Voilà, alors ces seuils techniques, ces points techniques que vous évoquez, bien sûr, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Et on rappellera à ceux qui veulent investir en crypto que ça doit rester de l'ultra-diversification, bien sûr, n'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Est-ce que vous pouvez nous apporter pour la suite, malgré tout, Xavier, des bonnes nouvelles? Est-ce que c'est possible?
Alors oui, j'en ai une, Guillaume, de bonnes nouvelles, c'est que les cryptos, bah, c'est pas que le Bitcoin. C'est pas le Bitcoin, sinon rien. Et je crois d'ailleurs que bah, y a l'un des événements les plus importants quand même, accessoirement, de l'histoire des cryptos qui approche, The Merge, qui en est l'exemple. Alors, je pense que Claire et Owen vont vous en parler et travaillent, du coup, en fait, le fondamental, là où il y a des nouveautés, justement, des améliorations ou pas. D'ailleurs, de mon côté, je travaille juste l'aspect plutôt technique. Donc, essayer de trouver, justement, là où il y a de l'activité et des tendances plus affirmées que ce marché, justement, comme on l'a vu à présent, qui est, tout à l'heure, qui est stable. Donc, on a l'Ether, qui surperforme largement le numéro 1, plus 50% depuis les plus bas de cet été. Il a même fait x2 à son plus haut. Aujourd'hui, donc, l'intérêt se porte clairement plus sur le numéro 2 que sur le numéro 1. Et si on va un petit peu plus loin, on a certaines qui sont performantes ces dernières semaines et qui le sont encore très solides. Chiliz, là, on est dans le milieu des NFT, milieu du sport, qui a fait x2 et qui est toujours dans une dynamique positive à court terme. Atom, de la blockchain Cosmos, qui a fait x2 pour les adeptes d'analyse technique et la moyenne mobile à 50 jours à surveiller. Ou encore Matic, de la blockchain Polygon, qui a fait x3 et qui se stabilise depuis un mois et qui est toujours solide avec des hausses progressives. Donc, même si effectivement la première moitié de l'année a été dure et rude sur l'ensemble du marché des cryptos, fondamentalement, je pense que vous allez le voir, ça se développe. Ça se ressent aussi sur l'évolution du cours des cryptos, parce que même si globalement on a des tendances semblables, là où on croit que si le Bitcoin ne monte pas, rien ne montera. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Donc, on peut voir le verre à moitié vide avec la tendance sur Bitcoin. Il y a aussi beaucoup de verres à moitié plein à travailler et je préfère me concentrer là-dessus.
Xavier Fenot, Interactive Trading à nos côtés. Merci beaucoup, Xavier. Alors, on va parcourir justement cette actualité, le merge d'Ethereum, dans un instant. Juste avant, on va regarder les NFT. Meta, c'est l'une des annonces et des changements de ces derniers jours. En tout cas, clair, Meta a décidé d'étendre l'utilisation de NFT aux utilisateurs d'Instagram et de Facebook. Pour le moment, c'est pas encore disponible en Europe. Soyez patients. Quel est clair l'intérêt pour Meta d'implémenter des NFT sur des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, et quel intérêt les utilisateurs peuvent-ils aussi y trouver?
Alors, Meta itère beaucoup sur sa stratégie crypto depuis quelques années. Souvenez-vous du projet de crypto-monnaie Libra de Facebook qui avait beaucoup fait jaser. Facebook a ensuite voulu sortir un portefeuille qui s'appelle Novi. Et aujourd'hui, on voit que le nouveau positionnement, mais qui est assez classique et que moi je vois aussi beaucoup chez mes clients dans des grands groupes, c'est le positionnement NFT. Et donc l'intérêt pour Facebook, déjà, c'est un intérêt concurrentiel puisque ses concurrents ont finalement de l'avance par rapport au groupe Meta. Je pense notamment à Twitter qui a implémenté ce genre de fonctionnalité il y a quelques mois. Donc il y a une logique de rattrapage. Il y a une logique aussi d'apparaître comme une entreprise moderne, de retenir la communauté crypto qui est fan de NFT, donc de satisfaire une partie de ses utilisateurs. Et puis plus largement, on peut imaginer que Facebook est en train de s'ancrer dans une stratégie Web3 plus large, de se dire que demain on aura un web un peu plus décentralisé avec des utilisateurs qui voudront pas juste créer du contenu mais aussi posséder du contenu. Et donc ça fait partie de cette stratégie de se dire qu'on offre aux utilisateurs la possibilité d'avoir des NFT et de les poster finalement sur ces plateformes. Donc tout ça est assez logique. Il faut bien aussi se rendre compte que pour Facebook, c'est l'occasion d'avoir plus de données aussi sur ses utilisateurs. Donc ça rentre parfaitement dans leur business model.
Ça passe par quelle blockchain?
Alors ça passe par les blockchains notamment Ethereum et Polygon. Et on va avoir une implémentation aussi des blockchains Solana et Flow. Là aussi, c'est assez logique puisque ce sont les blockchains les plus utilisés pour les NFT. L'écosystème Ethereum est très largement devant les autres en termes de NFT. Polygon sert beaucoup à créer des NFT parce qu'on a des frais de transaction parfois un peu élevés sur Ethereum. Et puis Solana et Flow sont aussi des blockchains très bien positionnés sur les sujets des NFT.
Les NFT sur Facebook et Insta désormais, très bien. Mais toute médaille a son revers. Owen, est-ce qu'on peut imaginer des risques associés à l'utilisation des NFT via les réseaux sociaux?
Il y en a plusieurs, mais à première vue, comme ça, j'en vois trois. Le tout premier, c'est un risque de perturbation, parce que si on commence à changer nos photos de profil pour mettre des NFT, bien que vous savez que j'adore les NFT et tout ce que l'on peut faire avec cet outil, mais on sait également qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de spéculation, beaucoup de collectibles. Bref, on va se retrouver avec des photos de profil, des animaux colorés un petit peu partout sur tous les réseaux sociaux, et ça va devenir compliqué de s'y retrouver. Déjà que sur Facebook, aujourd'hui, ça peut être relativement compliqué de savoir entre ce que l'on vient chercher et ce que l'on y trouve. Donc, si on commence à tous changer nos photos de profil dans tous les sens avec des NFT artistiques, ça risque d'être compliqué. Mais ça, c'est pas vraiment un risque, et c'est de l'usage, il ne tiendra qu'à nous de faire attention à ce qu'on en fait. Par contre, deux choses qui, elles, peuvent être plus problématiques. La première chose, c'est que, vous le savez, les crypto-monnaies et les NFT ne sont pas anonymes, ils sont pseudonymes. Quand on en détient, ils sont sur une adresse, mais on ne sait pas qui est derrière cette adresse. On peut donc voir tout ce qu'il y a sur l'adresse, tous les NFT qui y sont présents, le montant financièrement qu'il y a sur l'adresse, mais on ne sait pas qui est l'humain qui détient cette adresse. Eh bien, si on commence à afficher sur son Facebook que nous sommes le propriétaire avec certitude, parce que c'est l'objectif du réseau, c'est de montrer que quelqu'un détient avec certitude un NFT. Si on commence à montrer qu'on détient 50 000 ou 100 000 euros d'NFT, ça va permettre aux personnes d'aller voir dans la blockchain quelle adresse détient cet NFT, et donc quelles sont les autres ressources financières liées à cette adresse. Et ils pourraient, par hasard, par exemple, avoir un de vos voisins un peu jaloux qui finisse par connaître votre adresse de domicile et qui vienne chez vous pour récupérer une partie du butin. Ça, c'est l'un des premiers risques. Le deuxième, c'est le fait que pour se connecter, on va avoir besoin de prouver que nous avons la clé privée. C'est-à-dire prouver que nous sommes le propriétaire du portefeuille crypto qui détient ce NFT. Et donc, la plupart du temps, on va utiliser, comme pour les réseaux sociaux, son téléphone portable. Pouvoir télécharger des portefeuilles crypto de téléphones portables qui ne sont pas les plus sécurisés, et une personne qui ne saurait pas bien s'y prendre pourrait donc compromettre la sécurité de son portefeuille pour essayer de se connecter à ses réseaux. Bien que je ne doute pas que le géant Meta fasse ça très bien, ce sera évidemment un début et donc un défrichage, et il y aura potentiellement de la casse ou quelques abus, comme certains que je viens de vous lister.
C'est le prix lorsqu'on sait être pionnier. L'événement des prochains jours, ils sont peut-être aussi pionniers, les développeurs d'Ethereum, ils le sont de toute façon, ce sera le 15 septembre. Si je vous dis 15 septembre, Claire, Vous pensez au merge, voilà. Alors pour beaucoup de gens, ça ne dit rien du tout. Mais pour ceux qui suivent l'univers crypto, le merge, c'est tout simplement le passage de la blockchain Ethereum au proof of stake, la preuve de travail. On passe à la preuve d'enjeu, tout simplement. Alors on évoque régulièrement sur ce plateau même de BFM Business les conséquences à venir de cette mutation de la blockchain Ethereum. Et vous allez voir qu'il pourra y avoir un impact évidemment aussi pour les mineurs. On peut imaginer la migration d'un certain nombre de mineurs vers d'autres blockchains désormais qu'Ethereum. Quels sont, Claire, ces blockchains et quel pourrait donc être l'impact aussi de cette migration ?
Effectivement, les mineurs qui sont aujourd'hui sur Ethereum vont devoir, à un moment donné, changer de business ou changer de blockchain. Donc, soit ils vont devoir devenir validateurs sur la blockchain Ethereum, donc c'est plus vraiment du minage, il va falloir qu'ils achètent des Ethers, qu'ils les mettent en séquestre, soit ils vont devoir se reporter sur d'autres réseaux pour continuer le minage en preuve de travail. Alors, intuitivement, on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, ils ont qu'à miner du Bitcoin. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque le matériel de minage ne permet pas à ces mineurs d'aller facilement sur la blockchain Bitcoin. Pourquoi ? Parce que quand vous minez, il y a grosso modo deux solutions en termes de matériel. Soit vous avez ce qu'on appelle des cartes graphiques, c'est le plus simple, c'est le moins cher, c'est moins performant, ça vous permet de miner sur pas mal de blockchains différentes. Mais le problème de ces cartes graphiques, c'est qu'en fait, elles ne sont pas du tout compétitives sur Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est le plus grand réseau, il y a beaucoup de compétition. Et donc sur Bitcoin, on mine principalement avec ce qu'on appelle des ASIC, qui sont des machines plus performantes et spécifiques à une blockchain. Et donc, si vous minez sur Ethereum, bon, si vous avez un ASIC spécifique à Ethereum, vous pouvez de toute façon pas aller sur Bitcoin. Et puis, si vous avez une carte graphique, elle va pas être compétitive sur Bitcoin non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les mineurs d'Ethereum, ils vont se reporter sur d'autres blockchains qui sont minables pour la plupart en carte graphique. Et là, en fait, il n'y en a pas non plus 150 000. Hein. Vous avez Ethereum classique, qui est une autre version d'Ethereum. Vous avez des cryptos comme Dash, comme Zcash. Mais en fait, quand on regarde la capitalisation totale de ces cryptos-là, on est autour de 4 milliards. Donc, c'est en fait 2% de la capitalisation totale d'Ethereum aujourd'hui. Donc, il y a un vrai sujet, puisque si on imagine que tous ces mineurs vont aller miner sur ces réseaux-là, on va avoir une grosse augmentation de la puissance de calcul sur ces réseaux et probablement des récompenses financières pour les mineurs qui vont pas être très attractives. Et donc, on se retrouve dans une situation où les mineurs savent pas très bien où aller et comment continuer leur business.
Ouais, bon. Ils vont se retrouver, certains d'entre eux, pardonnez-moi l'expression, gros gens comme devant. Certains mineurs, du coup, choisissent au contraire de garder, Owen, la blockchain Ethereum actuelle à travers un fork. C'est quoi un fork? C'est une forme de schisme, de dissidence, de courant alternatif. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça?
Comme son nom l'indique, un fork est une fourchette. En gros, pour faire très simple, on va prendre une photo à l'instant T du réseau Ether. On va copier cette image et on va continuer dans deux blockchains différentes. La première chaîne est celle toujours soutenue par l'équipe de Vitalik Buterin, qui va donc passer du proof of work avec des mineurs au proof of stake avec des validateurs. Mais du coup, les mineurs qui sécurisaient la blockchain jusqu'à présent ne pourront pas sécuriser la nôtre. Mais comme il y aura eu une photo, un arrêt sur image à ce moment-là, au dernier bloc, et il y aura une nouvelle chaîne qui, elle, pourra toujours se sécuriser avec du minage. Et donc, à ce moment-là, on se pose plein de questions. Déjà, ça veut dire que toutes les personnes qui ont un Ether vont avoir un Ether W, c'est-à-dire l'Ether de cette nouvelle chaîne, grâce à ce fork, finalement. Et à ce moment-là, généralement, les gens doivent soutenir une chaîne ou l'autre. La particularité de ce fork, c'est que, comme on n'a pas besoin de mineurs pour sécuriser la nouvelle chaîne qui vient d'apparaître, les gens pourront, et donc une grosse quantité de mineurs, une grosse quantité de machines, pourront continuer à sécuriser la nouvelle chaîne qui va être créée et qui sera une copie soutenue par des mineurs qui sont chinois et qui sont les premiers à prôner l'idée que nous devons laisser Ether sur le proof of work. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'Ether fait un fork. Il y avait déjà eu un problème il y a plusieurs années, un problème qui a affecté l'Ether et qui a un petit peu scindé la communauté, bien que ce soit le projet Ethereum que nous connaissons aujourd'hui qui a été le plus suivi. Il y a la version 1 d'Ether, qui s'appelle aujourd'hui l'Ethereum classique, qui avait un problème, mais naturellement, on a dû éditer le réseau pour combler et régler ce problème, mais beaucoup de gens étaient là pour dire oui, mais en comblant le problème, on vient modifier le principe de base que l'on avait défini dans le code, et le code, c'est sacré, le code, c'est la loi, on ne le touche pas. C'était le tout premier fork d'Ether. Il y avait Ethereum, comme nous le connaissons aujourd'hui, et Ethereum classique, le premier réseau qui n'a pas vraiment été soutenu par la communauté. Aujourd'hui, on va avoir lieu à un nouveau fork, c'est-à-dire que les personnes qui ont un Ether vont également recevoir un EtherW. Et pour ce qu'il est de comment ça va se passer, on va devoir être un petit peu patient et attendre encore une dizaine de jours pour en avoir la réponse.
Ce sera le 15 septembre, donc ce merge d'Ether, c'est fixe. On est sûr maintenant que ce sera le 15 septembre ou ça peut encore évoluer, Claire? On a vu passer 19 septembre, on en a vu passer les dates. Celle-ci peut rester, va rester?
C'est maintenant, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais a priori, c'est bien le 15 septembre.
Bon, un été entier, en 25 minutes, ce sont les pros des cryptos. Il nous reste 8 minutes à passer ensemble. Le mois d'août a également été marqué par des hacks. Deux d'entre eux, d'ailleurs, sont assez intéressants. On peut démarrer avec ce hack des wallets fantômes sur la blockchain Solana ON. Avec le recul, quels enseignements faut-il en tirer?
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des wallets de navigateurs. C'est des wallets avec lesquels on peut créer son tout premier portefeuille. On parle de fantôme parce que c'est l'un des plus connus, mais la faille à l'origine vient de Slope. En réalité, quand vous créez votre portefeuille sur Solana, on va vous donner différents mots à sauvegarder. Une mnémonique phrase, c'est-à-dire une phrase avec différents mots qui fait que si vous cassez votre ordinateur, vous pourrez demain, grâce à ces mots, régénérer votre portefeuille et récupérer l'accès à vos fonds. La particularité du portefeuille Slope, c'est qu'apparemment, toutes les mnémoniques des clients étaient sauvegardées dans un espace de stockage externe. Et apparemment, c'est cet espace de stockage externe qui a été corrompu. Ce qui est relativement grave, en l'occurrence, parce que ça veut dire que tous les portefeuilles des utilisateurs étaient par quelqu'un d'autre, quelque part. Cette faille a donc permis à quelqu'un de s'emparer de la plupart des portefeuilles du réseau, des utilisateurs qui, eux, se sont simplement retrouvés surpris de voir le portefeuille de leur ordinateur vidé d'une minute à l'autre, on parle d'une perte de plus de 7 millions de dollars, et il y a même eu du coup un effet ricochet sur le portefeuille fantôme. Alors le portefeuille fantôme, c'est une toute autre entreprise, c'est une toute autre organisation et un tout autre portefeuille, mais apparemment, parce qu'on n'a pas tous les détails de cette histoire, il s'agirait de ceux qui avaient créé leur portefeuille Solana sur le wallet Slope à l'origine et qui, grâce à cette phrase mnémonique, l'ont importée dans Fantôme en continuant d'utiliser Fantôme à la suite, qui se sont vus corrompre leur compte et donc perdre leurs fonds quand une personne a réussi à hacker et à obtenir les mnémoniques de toutes les personnes ayant créé pour la première fois leur portefeuille sur le portefeuille Slope du réseau Solana.
Et bien voilà. Et le palmarès des hacks se poursuit. Autre hack intéressant cet été, Claire, le hack du Bridge Nomade.
Et oui, alors c'est un gros hack puisqu'on parle de 190 millions de dollars, donc c'est le cinquième hack le plus important. Alors je rappelle, un bridge, ça permet de rendre les blockchains, je dirais, interopérables entre elles et donc de faire circuler des jetons, des crypto-monnaies d'une blockchain à l'autre. Donc c'est assez utilisé, mais techniquement, il y a finalement assez souvent des failles de sécurité. Donc comment ça fonctionne un bridge? En réalité, les fonds sont bloqués dans un smart contract et puis on réplique les jetons sur une autre blockchain. Donc c'est le cas par exemple avec Bitcoin, on peut faire circuler du Bitcoin sur Ethereum sous forme de Bitcoin enveloppé. Et donc là, on parle d'un bridge qui permettait de faire interagir Ethereum, Avalanche et puis d'autres blockchains. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement une erreur dans le code, notamment dans la mise à jour d'un smart contract, qui a permis à des personnes de retirer des fonds qui ne leur appartenaient pas. Et de les retirer assez vite, puisqu'en fait, il n'y avait pas de manipulation très complexe à faire.
C'est ballot.
Donc c'est un hack qui a été très rapide. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est qu'on a vu aussi ce qu'on appelle des white hats, donc des sortes de hackers bien intentionnés, qui, en voyant cette possibilité de hacker les fonds, l'ont utilisé en disant « je hack finalement pour que personne ne le fasse de manière mal intentionnée, et puis moi je promets de rendre les fonds dès lors qu'on me donnera une adresse sécurisée pour les rendre ». Donc on voit des comportements finalement assez différents, plus ou moins bien intentionnés. Mais ici, ça rappelle surtout à quel point les bridges sont sensibles en termes de sécurité. Ça avait été pointé par Vitalik Buterin, là aussi, il y a quelques mois. Et c'est une des choses qui fait qu'un monde avec beaucoup de blockchain, finalement, aujourd'hui, est assez risqué parce qu'on a ces risques techniques dans l'interopérabilité entre les protocoles.
Et certains investissent en crypto aussi dans le but de réaliser des activités illicites. C'est pas du tout la majorité de l'activité crypto, mais ça existe comme avec l'argent cash, la monnaie, les billets de banque qui peuvent être utilisés pour des choses positives comme pour des choses illicites. Et donc certains espèrent réaliser des opérations anonymes, parfois illicites, qui resteraient jusqu'au bout inaperçues grâce aux cryptos. Dans les cryptos, d'ailleurs, certains passaient pour cela par Tornado Cash, le mixeur de crypto basé sur le réseau Ethereum. Eh bien, y recourir est désormais interdit, mesdames, messieurs, aux États-Unis. C'est toute la quête d'anonymat qui se trouve désormais défiée. Pourriez-vous d'abord, Owen, nous rappeler ce qu'est un mixeur et ce qui s'est passé?
Imaginons que nous avons tous ici un Ether, c'est-à-dire qu'il y a Claire, moi-même, Xavier et vous, Guillaume. sur la blockchain, nous sommes 4 adresses. Tout le monde peut voir ces adresses, mais personne ne sait que nous sommes derrière ces adresses-là. Imaginons maintenant, Guillaume, que vous l'avez révélé publiquement. Vous avez dit, voici mon adresse, tout le monde peut me suivre. À ce moment-là, on peut suivre vos dépenses. Si votre adresse dépense demain un Ether pour faire un achat quelconque, tout le monde saura que c'est vous, parce que vous avez donné cette information. Eh bien, le mixeur, voyez ça un petit peu comme une urne opaque. Imaginons que Claire, moi-même, Xavier et vous, Guillaume, nous déposons tous un Ether dans cette urne. Et dans plusieurs semaines, vous, Guillaume, vous allez venir et vous allez retirer un Ether. Eh bien, on ne pourra pas savoir l'Ether de qui vous avez pris. Est-ce que c'est le mien que vous avez obtenu? Peut-être la moitié du mien, la moitié de celui de Claire, peu importe. En tout cas, le mixeur va servir grâce à une technique qui s'appelle le coin join, de venir mélanger et donc faire en sorte que l'on ne puisse pas tracer de la crypto-monnaie. À la base, c'est pour protéger et pour préserver sa vie privée que l'on utilise ce genre d'outils. Hein. Les mixeurs ont été utilisés par exemple par Vitalik Buterin, qui a des adresses qui sont publiques et qui voulait par exemple faire une donation à l'Ukraine sans pour autant afficher publiquement qu'il soutenait, à quelle hauteur et pourquoi. Et donc dans plein de cadres, que ce soit des dépenses personnelles ou que ce soit pour des raisons également, on n'a pas à vouloir donner l'intégralité de son solde et ce que l'on détient sur son compte en banque, on veut garder une certaine couche d'opacité sur tout ce qui va être vie privée et dépenses financières. Pour le coup, la grosse histoire est que cet outil est naturellement utilisé par beaucoup de gens pour des raisons qui sont totalement louables. Hein. Là, pour le coup, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la vie privée est un droit fondamental. Malgré tout, il y a aussi des gens qui viennent anonymiser leurs transactions pour cacher leurs méfaits. Là, le fait est que le groupe Lazarus Group, hein, qui est un groupe de cybercriminalité nord-coréen, aurait passé plus de 450 millions de dollars sur le mixeur Tornado Cash, prenant instantanément, du moins dès qu'ils l'ont compris, une sanction de par le Trésor américain interdisant l'usage de cet outil sur les sols américains.
Et donc, il est désormais interdit aux États-Unis de recourir aux adresses liées à Tornado Cash. Voilà, c'est un coup porté à l'anonymat via les cryptos. Quelles seront les conséquences de cette interdiction, Claire?
Oui, alors, vous dites aux États-Unis, mais en fait, ce qui se passe, c'est pas qu'aux États-Unis, parce que les États-Unis ont une influence sur le monde qui fait que leur régulation va bien au-delà de leur simple territoire. Et effectivement, ça a été un gros choc dans la communauté crypto, notamment parce que, pour la première fois, on a aussi un développeur qui a été arrêté aux Pays-Bas, un des développeurs principaux de Tornado Cash, qui, lui, à un moment donné, a développé un produit sur la blockchain sans savoir que c'était illégal et bien se retrouve arrêté et se retrouve en prison. Et donc il y a eu aussi un vent de un peu de panique hein, dans la crypto et ça force aujourd'hui les acteurs à se positionner dans leur relation avec leur régulateur et dans leur relation à certaines valeurs de décentralisation et de résistance à la censure. Et donc on voit par exemple des émetteurs centralisés et décentralisés de stablecoin se poser ce type de questions. On a vu Circle qui a blacklisté certaines adresses ayant interagi avec Tornado Cash. On a à l'inverse Tether qui dit ben non, finalement nous, tant que le régulateur ne nous demande pas explicitement de censurer certaines adresses, on ne va pas le faire. On a des émetteurs, je dirais, décentralisés comme MakerDAO, qui est l'émetteur du DAI, se poser des questions, même en se disant, mais finalement, nous, on dépend de stablecoins centralisés qui, eux, peuvent blacklister des adresses. Comment fait-on pour être, nous, plus indépendants et plus résistants à la censure? Et plus largement, on a plein de services dans la DeFi qui, aujourd'hui, opèrent une forme, je dirais, de censure en empêchant certaines adresses d'interagir avec leurs interfaces, avec leurs front-end hein, uniquement pour la plupart. Je pense à AAV, à Uniswap, qui empêchent voilà, des adresses ayant interagi avec Tornado Cash d'accéder à leurs services via leur interface. Mais là, finalement, certains disent que c'est pas très grave parce que ce sont des censures temporaires. Voilà, on temporise le temps de savoir exactement ce qu'on doit faire. Et puis, c'est qu'une interaction avec l'interface. La vraie question, à mon sens, ça va être surtout sur la censure au niveau protocolaire, au niveau des blockchains elles-mêmes. Et la question, elle se pose particulièrement parce qu'on a eu un groupe de mineurs, un pool de minage, Ethermine, qui, à un moment donné, a décidé de ne plus prendre en compte les transactions qui étaient liées à Tornado Cash. Pardon. Et ça pose aussi des vraies questions parce que si demain on est avec The Merge, avec des validateurs qui ont une grande puissance sur le réseau, eh bien, on va se retrouver avec une forme de censure au niveau protocolaire opérée par les validateurs d'Ethereum ou sur d'autres protocoles, ce serait le même principe. Et donc, on a vu d'ailleurs Vitalik Buterin s'exprimer à ce sujet en disant on devrait peut-être mettre en place un burn et donc une sanction pour les validateurs qui décideraient de ne pas prendre en compte certaines transactions sous prétexte qu'elles ont interagi avec des mixeurs. Donc c'est un gros débat dans la communauté.
Écosystème encore naissant, émergent, en quête de perfection. Tout est toujours perfectible. Mais c'est ça qui est passionnant et c'est un univers de pionniers. qu'on vous fait découvrir au jour le jour grâce aux meilleurs experts français sur BFM Business. Ils sont tous réunis dans les pros des cryptos et le club BFM Crypto également le reste de la semaine. Merci beaucoup à tous les trois. Claire Balva, directrice blockchain et crypto pour KPMG France, qui était aussi à Surfing Bitcoin. Ils ont peur d'ailleurs du merge d'Ethereum, les bitcoins maximalistes, Claire?
Ils n'ont pas l'air effrayés. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant à Surfing Bitcoin, c'est que pour la première fois, enfin pas la première fois puisque c'est la troisième édition, mais c'est un événement où on parle très peu du prix de Bitcoin. On parle surtout des améliorations technologiques et des enjeux politiques et géopolitiques.
Il vaut mieux moins parler du prix, ça fait un peu mal en ce moment, c'est pour ça peut-être.
Non, mais même l'an dernier, on était en plein bullrun, finalement, on parlait quand même très peu du prix.
Owen Simonin, on peut parler de votre nombre d'abonnés? Owen, on est à combien sur la chaîne YouTube Asher?
On est à deux doigts des 600 000, on doit être à 590 là.
600 000, c'est quoi? C'est Bordeaux et son agglomération quasiment, ça, au total. On va vérifier le chiffre, on ne va pas dire de grosses bêtises. Merci Owen. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher et Just Mining, bien sûr. Merci à tous les trois. Xavier Fenot aussi était avec nous tout à l'heure. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés pour cette rentrée des pros des cryptos. Le CAC accélère à la hausse, on est au plus haut du jour. On vous explique tout dans un instant, mais c'est une fin de semaine en fanfare sur les marchés. À tout de suite.
C'était votre rendez-vous avec Phil Mining, plateforme française spécialisée dans les investissements et placements en crypto-monnaie.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.